3. Les gardes nous conduisirent dans un des vestiaires, vastes et luxueux, comparés aux standards auxquels j'étais habitué. Il y avait un éclairage électrique au plafond, mais apparemment, il n'était pas relié au générateur artisanal, et les lampes avaient été remplacées par des brûleurs à gaz. Le sol et les murs en carrelage blanc étaient immaculés, jusqu'à ce qu'on y laisse des traînées de terre et quelques taches de sang consécutives au duel à coups de bâton. Des hommes gris se chargeaient sans doute du ménage, mais je n'en voyais aucun dans les parages. Il y avait une rigole d'eau courante pour pisser, ce dont ne se privèrent pas plusieurs hommes. Et à chaque extrémité, des sièges en porcelaine percés d'un trou au milieu. Destinés aux femmes, devinai-je, mais ni Jaya ni Eris ne les utilisèrent. En revanche, elles se mirent torse nu, comme les hommes, sans gêne apparente. Jaya avait reçu plusieurs coups de bâton et des hématomes commençaient à fleurir sur ses côtes. D'un côté du vestiaire, il y avait des casiers en bois dans lesquels les membres de l'équipe devaient ranger leurs affaires autrefois. Nous autres, évidemment, on n'avait rien à ranger. En face, une longue étagère accueillait des seaux d'eau pour se laver. Dans chacun flottait un chiffon. Il n'y avait pas de savon. J'ôtais mon t-shirt en grimaçant à cause de diverses douleurs, dues essentiellement aux coups de badine, surtout dans le bas du dos. Je ne voyais pas la blessure, mais je sentais le sang à moitié séché et collant. Plusieurs détenus s'étaient déjà alignés devant les seaux pour se laver le haut du corps. Certains avaient même baissé leurs pantalons pour laver le reste. Personnellement, je préférais faire l'impasse sur cette partie des ablutions, mais il était intéressant de noter qu'à Empis, comme en France, à en croire la petite chanson, les gens ne portaient pas de sous-vêtements. Amit s'avança vers moi en clopinant. Les gardiens ne nous avaient pas accompagnés dans le vestiaire, ce qui voulait dire que personne ne pourrait intervenir si Amit voulait sa revanche. Je n'étais pas contre. Je me mis en position, poing serré, mon torse nu encore recouvert de plusieurs jours de crasse, peut-être même plusieurs semaines maintenant. C'est alors qu'une chose stupéfiante se produisit. Ayota, Frémi, Stux et Amé formèrent une ligne devant moi, face à Amit. Celui-ci secoua la tête et colla le talon de sa main sur son front comme s'il avait la migraine.
« J'y croyais pas, » dit-il. « Mais maintenant, si, peut-être, tu es vraiment le... »
Ayota fit un pas en avant et plaqua sa main sur la bouche d'Amit avant qu'il achève sa phrase. De l'autre main, il montra une grille qui servait peut-être à chauffer les vestiaires à l'époque où ce stade et tout le reste dans cette ville fonctionnaient. Amit suivit son regard et hocha la tête. Malgré une douleur évidente, il mit un genou à terre et porta de nouveau sa main à son front.
Bah, « Toutes mes excuses, Charlie. »
J'ouvris la bouche pour répondre, pas de problème, mais je m'entendis dire « Je les accepte bien volontiers. Relève-toi maintenant, Amit. » Tous me regardaient et certains, pas Ayota, pas encore, touchaient leur front. Ils n'avaient pas tous mal à la tête et j'en déduisis qu'il s'agissait d'un salut. Ils croyaient à une chose totalement ridicule et pourtant...
« Lave-toi, Charlie !»
dit Gully. Il tendit la main vers un des seaux. Pour une raison qui m'échappait, Eris se déplaçait en canard le long de l'étagère en faisant courir ses mains dessous.
« Allez, lave-toi !»«
Les cheveux aussi !» ajouta Ayota.
Et voyant que j'hésitais,
« T'inquiète pas, ils ont besoin de voir, et moi aussi !»
Puis il ajouta,
pardonne-moi d'avoir dit que je voulais te faire bouffer de la terre. Je lui dis qu'il n'y avait pas de mal, sans prendre la peine de préciser que je m'étais souvent fait chambrer dans ma vie. Ce n'était pas juste un truc de sportif, c'était un truc de mec.
J'approchais d'un des seaux et essorais le chiffon qui flottait dedans. Je me lavais le visage, le cou, les aisselles et le ventre. J'étais affreusement conscient de la présence d'un public qui assistait à ma toilette. Quand j'eus fini de laver tout ce qui était accessible, Jaya m'ordonna de me tourner, ce que je fis, et elle me lava le dos, avec la plus grande délicatesse à l'endroit où Aaron m'avait frappé pour me punir d'avoir effectué un tour complet aux anneaux. Je grimaçais malgré tout.
« Non, non, ne bouge pas, Charlie, » dit-elle d'une voix douce. « Je suis obligée de nettoyer la blessure pour que ça ne s'infecte pas. »
Quand elle eut terminé, elle montra un des seaux qui n'avait pas été utilisé. Et elle caressa mes cheveux avant de retirer sa main immédiatement comme si elle s'était brûlée. J'interrogeai Ayota du regard. Il hocha la tête. Alors, sans plus attendre, je pris le seau et versai l'eau sur ma tête. Elle était assez froide pour me couper le souffle, mais ça faisait du bien. Je passai ma main dans mes cheveux, retirant une grande quantité de poussière et de saleté. L'eau autour de mes pieds était sale. Je me peignais avec mes doigts, tant bien que mal. Mes cheveux ont poussé, pensais-je. Je dois ressembler à un hippie. Les 30 détenus me regardaient, bouche bée pour certains, tous les yeux écarquillés. Ayota colla le talon de sa main sur son front et s'agenouilla. Les autres l'imitèrent. Dire que j'étais interloqué serait en deçà de la réalité. « Levez-vous, leur dis-je, je ne suis pas celui que vous croyez. » Mais je n'étais pas sûr que ce soit vrai. Ils se levèrent. Ayota s'approcha et empoigna une touffe de cheveux qui couvrait mon oreille. Il tira dessus « Aïe !» et me montra sa paume. Même mouillée, ma chevelure brillait dans la lumière des brûleurs à gaz, presque autant que les pépites d'or de M. Bodich. « Et mes yeux ?» demandai-je. « De quelle couleur sont-ils ?» Ayota plissa les paupières et colla presque son nez contre le mien.
« Toujours noisette, mais ils peuvent encore changer. Tu dois regarder le sol le plus possible. »«
Ces salopards aiment ça !»
commenta Stux.
« Ils adorent !»
renchérit Frémy. « Ils vont revenir nous chercher d'un moment à l'autre, » dit Iris. « Laisse-moi... Désolé, prince Charlie, mais je dois... »«
Ne l'appelle pas comme ça !» s'emporta Tom. « Jamais ! Tu veux qu'il se fasse tuer ? Appelle-le Charlie, et pas autrement !»«
Pardon, » murmura-t-elle. « Et je suis désolée de faire ça, mais il le faut. »
Elle avait rassemblé une grande quantité de crasse sous l'étagère, mélange de vieille graisse et de poussière.
« Penche-toi, tu es très grand. »
« Évidemment, pensais-je. Je suis grand, de type caucasien, blond maintenant, et j'aurai peut-être les yeux bleus avant longtemps. » Un prince fringant sorti d'un long métrage des studios Disney. Même si je ne me sentais pas très pimpant et que toute cette histoire me paraissait absurde. Quel prince de chez Disney avait déjà barbouillé un pare-brise avec de la merde et fait sauter une boîte aux lettres avec un pétard? Je me penchais, comme me le demandait Eris. Très délicatement, elle passa ses mains dans mes cheveux pour les salir de nouveau, les foncer. Je dois avouer que la sensation de ses doigts sur mon cuir chevelu me procura un petit frisson. Et, à en juger par la rougeur qui apparut sur ses joues, je n'étais pas le seul. Quelqu'un tambourina à la porte. Un des soldats de la nuit braya.
« La récréation est terminée. Sortez de là. Allez, allez, ne m'obligez pas à le répéter, petit. »
Iris recula d'un pas. Elle leva les yeux vers moi et se tourna vers Ayota, Jaya et Amay.
« Je crois que ça ira »,
dit Jaya tout bas. J'espérais qu'elle avait raison. Je n'avais aucune envie de retourner dans les appartements du grand intendant ou dans la salle de torture. Si on me conduisait là-bas, on m'obligerait à tout avouer et je finirais par tout dire. D'où je venais, en premier lieu, qui m'avait aidé dans mon périple et où vivaient ces personnes. Et enfin, qui j'étais aux yeux de mes compagnons de détention, leur putain de sauveur.
4. De retour à Deep Malin, les portes se fermèrent et se verrouillèrent sur un geste des soldats de la nuit. Chouette tour de magie. Je me demandais s'ils en avaient d'autres en stock, en plus de pouvoir administrer des décharges électriques à volonté. Amay me dévisageait avec des yeux de merlan frit, du coin de sa cellule, aussi loin de moi que possible. Je lui demandais d'arrêter de me regarder de cette façon, ça me rendait nerveux. «
Pardon, prince... »«
Charlie,
il faut faire un effort. Promettez-le-moi. »«
Promis. » »«
Et essayez de garder pour vous ce que vous croyez savoir. »
J'ai dit à personne ce que je pensais.
Regardant par-dessus mon épaule, je vis Frémy et Stokes côte à côte dans leur cellule. Eux aussi m'observaient.
Je compris comment la nouvelle s'était répandue. Certaines histoires, vous le savez probablement, sont tellement bonnes que vous ne pouvez pas les garder pour vous. J'étais encore en train de dresser l'inventaire de mes douleurs quand quelqu'un ouvrit les quatre verrous de la porte du fond. Percy fit son entrée en tenant une grosse part de gâteau sur un plat en métal. Un gâteau au chocolat, apparemment. Mon estomac se manifesta. Percy marcha jusqu'à la cellule qu'Amit partageait avec Gully. Amit glissa la main entre les barreaux pour chiper un gros morceau de gâteau. Il le fourra dans sa bouche et dit, à regret,
« Donne le reste à Charlie. Il m'a battu. Il m'a mis une branlée. »
Ce n'était pas ce qu'il avait dit, mais ce que j'avais entendu. C'était une expression qu'employait ma mère après une partie de gin rummy avec son amie Edda. Parfois, Edda lui mettait une branlée. Parfois, elle lui mettait une piquette ou une déculottée. Il y a certaines expressions qui ne s'oublient pas. Percy rebroussa chemin dans le couloir. Le gâteau était toujours sur le plat, amputé d'un bon morceau. Des regards concupiscents le suivirent. La part de gâteau était si grosse que Percy fut obligé de pencher le plat sur le côté pour le faire passer entre les barreaux. Je dus le retenir avec ma main pour l'empêcher de glisser. Je léchais le glaçage sur mes doigts. Oh, bon sang! Quel délice! J'en ai encore le goût dans la bouche aujourd'hui. Je m'apprêtais à avaler une bouchée en me promettant d'en garder un morceau pour Amet et peut-être aussi pour le duo comique de la cellule voisine, puis hésitais. Percy s'était arrêté devant ma cellule. Voyant que je le regardais, il colla le talon de sa triste main aux doigts soudés sur son front gris et mit un genou à terre. 5. Je m'endormis et rêvais de Radar. Elle trottinait sur la route du royaume en direction du hangar où on avait passé la nuit avant de pénétrer dans la ville. De temps à autre, elle s'arrêtait et me cherchait du regard en gémissant. À un moment donné, elle faillit faire demi-tour, mais elle repartit. « Gentille chienne, cache-toi si tu peux. » Les deux lunes transpercèrent les nuages. Les loups se mirent à hurler à point nommé. Radar cessa de trottiner pour se mettre à galoper. Les hurlements s'amplifièrent et se rapprochèrent. Dans mon rêve, je voyais des ombres basses ramper de chaque côté de la route du royaume. Les ombres avaient des yeux rouges. C'est là que le rêve se transforme en cauchemar, pensais-je. Et je m'obligeais à me réveiller. Je ne voulais pas voir une meute de loups, deux meutes plus exactement, jaillir des rues et des ruelles de ces faubourgs dévastés et attaquer mon ami. Le rêve se dilua. J'entendais Amet grogner. Frémy et Stux parlaient à voix basse dans la cellule voisine. Avant que je réintègre pleinement la réalité, une chose merveilleuse se produisit. Un nuage plus noir que la nuit roula vers Radar. Quand il passa devant les deux lunes, le nuage se transforma en dentelle. C'étaient les monarques. Habituellement, ils ne volaient pas la nuit. Ils auraient dû être perchés quelque part, mais c'est ça la force des rêves. Le nuage atteignit ma chienne et plana à quelques dizaines de centimètres au-dessus d'elle pendant qu'elle continuait à courir. Certains papillons vinrent se poser sur sa tête, son dos et son arrière-train qui avaient retrouvé toute sa puissance. Leurs ailes se déployaient et se refermaient lentement. Les loups cessèrent de hurler et je me réveillais. Amet était accroupi au-dessus du trou à merde, les lambeaux de son pantalon formant une flaque autour de ses pieds. Il se tenait le ventre à deux mains.
« Tu peux pas la fermer !»
brailla Ayota de l'autre côté du couloir.
« Y en a qui essaient de dormir ici !»«
Ferme-la toi aussi !» rétorquai-je tout bas. Je m'approchai de Amet. « Un problème ?»«
Non, non, rien de grave. »
Son visage en sueur affirmait le contraire. Soudain, il produisit un pet explosif, suivi d'un plop.
« Ah la vache, ça va mieux. »
L'odeur était épouvantable. Malgré tout, je lui pris le bras pour qu'il ne tombe pas en remontant ce qui restait de son pantalon.
« Oh ! Qui est mort ?»
demanda Frémy.
« Je crois que le cul de Amet finit par lâcher !»
dit Stux.
« Cessez tous les deux !»
m'écriai-je.
« Être malade, ça n'a rien de drôle !»
Ils se turent immédiatement. Stux porta sa paume à son front.
« Non, non !»
dis-je,
En prison, vous chopez rapidement le langage vernaculaire.
Ne faites pas ce geste! Jamais!
J'aidais Ahmet à regagner sa paillasse. Son visage était tiré et blême. L'idée de le voir affronter qui que ce soit lors d'un un contre un prétendument équitable, même Domi et ses poumons fichus, était ridicule. Non. Erreur. C'était horrible. Comme demander à une perruche d'affronter un Rottweiler.
La bouffe me réussit pas. Je te l'ai déjà dit. Avant, j'étais costaud. Je bossais 12 heures par jour à la scierie Broquet, parfois même 14 heures sans jamais réclamer une pause supplémentaire. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Des champignons? Non, sans doute pas. Probable que j'ai dû avaler une saleté de microbes. Et maintenant, la bouffe me réussit pas. Au début, c'était pas trop grave. Maintenant, si. Tu sais ce que j'espère?
Je secouais la tête.
J'espère qu'il y aura un contre un et que je tiendrai jusque-là. Comme ça, je mourrai à l'air libre. Et non pas parce que mon ventre aura explosé pendant que j'essayais de chier dans cette putain de cellule de merde.
C'est ici que vous êtes tombé malade? C'était probable. Des champignons toxiques l'auraient tué très vite, ou bien il se serait rétabli au bout d'un moment. Et puis, Deep Maline n'était pas un environnement très aseptisé. Mais Ahmet fit non de la tête.
Je crois que c'était sur la route, en quittant la citadelle, après l'apparition du gris. Des fois, je me dis que j'aurais préféré choper cette foutue maladie.
C'était il y a combien de temps?
Je sais pas. Des années. Des fois, j'ai l'impression de sentir cette saloperie bourdonner là-dedans.
Il massa son ventre flasque.
Elle se balade à l'intérieur et elle me bouffe petit à petit. Lentement.
Il essuya la sueur sur son visage avec son bras.
Ils étaient que 5 quand ils nous ont ramenés ici, Jacka et moi.
Il montra au bout du couloir la cellule que Jacka partageait avec Bernd.
Avec nous deux, ça faisait 7. Le nombre augmente sans cesse. Quand quelqu'un meurt, il baisse, mais il finit toujours par remonter. Aujourd'hui, on est 31. Bolt était ici avant moi. C'est peut-être lui le plus ancien, parmi les vivants. Il raconte qu'à l'époque, Flight Killer voulait qu'on soit 64. Comme ça, il y a plus d'affrontements. Plus de sang et de cervelle sur la pelouse. Mais Kaylin, c'est sûrement lui. L'a convaincu qu'il n'arriverait jamais à obtenir autant de personnes saines, alors maintenant c'est 32. Et Hyde dit que si le 32e arrive pas bientôt, Flight Killer fera appel à Red Molly au lieu de la garder pour la fin.
Ça, je le savais déjà. Et bien que je n'ai jamais rencontré Red Molly, je la craignais, car j'avais vu sa mère en revanche. Mais il y avait une chose que j'ignorais. Je me penchai à l'oreille de Ahmet.
Elden est Flight Killer. C'est comme ça qu'il l'appelle.
Il n'a pas un autre nom.
Gogmagog.
C'est à ce moment-là que je compris quel fossé énorme, un gouffre, un abîme, sépare la magie qu'on trouve dans les contes de fées, style les cadrans solaires permettant de rajeunir, du surnaturel. Car quelque chose m'entendit. Les appliques qui produisaient une lumière faiblarde en crachotant crachèrent soudain des flammes d'un bleu éclatant qui éclairèrent Deep Maline comme des flashs d'appareil photo. Des cris de peur et de surprise s'échappèrent de plusieurs cellules. Je vis Ayota derrière ses barreaux, une main devant les yeux. Cela ne dura qu'une seconde ou deux, mais je sentis le sol de pierre se soulever sous mes pieds et retomber avec un bruit sourd. De la poussière de pierre tomba du plafond. Les murs gémirent, comme si notre prison avait poussé un hurlement en entendant ce nom. Non, pas comme si. Elle avait réellement crié. Et puis, plus rien. Ahmet passa son bras décharné autour de mon cou en serrant presque au point de m'étouffer, et il murmura
« Ne prononce plus jamais ce nom !» Tu veux réveiller ce qui dort dans le puits obscur ?